RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés cette semaine, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1, Hassan Diop de Radio France Internationale et Vincent Hugeux de L'Express. Au sommaire, au lendemain du premier tour de la présidentielle française, quelles leçons pour la classe politique africaine qui très souvent s'inspire du modèle français et quelles conséquences pour la relation entre la France et l'Afrique compte tenu du peu de connaissances qu'ont les deux candidats du continent. Puis une page culturelle avec le lancement cette semaine des festivités relatives à Conakry, capitale mondiale du livre. Une belle vitrine pour la capitale guinéenne, mais quelles seront les retombées pour les populations ? En raison des relations qu'entretiennent l'Afrique et la France, la classe politique africaine suit avec grand intérêt l'élection présidentielle française, dont le résultat ne sera pas sans conséquences. D'ores et déjà, l'affiche du second tour permet de tirer quelques leçons. La première est l'éviction des candidats issus des formations politiques traditionnelles. Quelle lecture peut-on faire, Hassan, par les partis politiques au pouvoir sur le continent ?
Alors, première lecture, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, les partis traditionnels ont été laminés. On a vu les Républicains qui étaient représenté par François Fillon, donc arrivé en troisième position. D'un côté, évidemment, il y a Madame Le Pen, qui représente l'extrême droite, qui a, à mon avis, plus de relief politique, en tout cas au niveau de l'expérience, que Macron. Et on voit également, en troisième position, quatrième position, Mélenchon, voilà, qui a incarné l'extrême gauche, et qui d'ailleurs, pour l'instant, garde le silence total quant à son positionnement, alors que la plupart des acteurs politiques, des dirigeants, appellent à se rallier à Macron pour le deuxième tour. Quant à lui, il garde le silence. D'après les sondages, c'est Macron qui est donné gagnant. Voilà.
Vincent Hugeux, le cas peut-il se présenter sur le continent compte tenu du poids des partis politiques qui sont très souvent dirigés à la fois par le président, chef du parti, mais également président de la République ?
Il y a un phénomène qui me frappe, c'est que les efforts conduits par le Front National version Marine de dédiabolisation, pour reprendre une rhétorique connue, semblent porter leurs fruits. Paradoxe allemand en Afrique. Et c'est d'autant plus singulier que, au fond, et on l'a vu récemment autour du Veldiv, les adhérences idéologiques sont persistantes. Et que quand on regarde la matrice Front National extrême droite française, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu dans la classe politique africaine une forme de trouble fascination pour à la fois un souverainisme frénétique, le culte de l'homme fort ou de la dame de fer, et alors que le père Jean-Marie, il faut s'en souvenir aussi, avait autour de lui toute une nébuleuse de personnages venus de l'OAS, donc du militantisme Algérie française radicale, qui ont trouvé leur place dans telle présidence africaine comme conseiller. Certains ont été ministres. Bon, et donc je trouve quand même incroyablement masochiste qu'aujourd'hui, et y compris dans la presse africaine, on voit une sorte de relativisme, qu'on se dit oui, xénophobe, et alors ?
Oui. Enfin, c'est quand même pas général. Hein. Faisons pas de généralité.
Non, par exemple, c'est même arrivé en tête chez les Français de l'étranger, hein, partout.
Oui, les Français de l'étranger.
Oui, oui. Mais quand même globalement, en Afrique, on vote contre Madame Le Pen. Globalement, surtout les jeunes générations.
Oui, Stéphanie Hartmann. Je pense que vous avez tout dit. Effectivement, hein, on comprend bien ce qui peut séduire chez Marine Le Pen sur le continent africain. Le discours souverainiste, ce sont des jeunes États. Ça plaît. La comparaison entre l'euro et le franc CFA, et c'est des thèmes sur lesquels Marine Le Pen, elle sait surfer. Alors c'est facile pour elle. Pour l'instant, elle n'a que le ministère de la parole, on ne l'a pas vu aux actes. Effectivement, le Front National était contre la décolonisation et quelqu'un comme Bernard Courcelles a été dirigeant du service d'ordre du Front National et il a été aussi à la tête de la garde présidentielle au Congo en 99, au lendemain du coup d'État. J'ai l'impression que l'élection présidentielle française est de moins en moins suivie depuis le continent africain. Ça montre aussi un certain détachement que je voudrais souligner, que c'est déjà un peu pas plus mal. Et l'élection présidentielle française est surtout suivie dans les pays d'Afrique francophone. Et quant au phénomène Macron, effectivement, il est vu comme un homme neuf. C'est aussi, d'une part, l'échec des partis traditionnels. C'est aussi la crise de la démocratie qu'on observe un peu partout dans le monde. Je pense que, mais comme Donald Trump aux États-Unis aussi, en est l'illustration. Et donc, ça peut parler sur le continent africain. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que ce que dénonce un Sénégalais comme Felwine Sarr, il fait finalement, c'est de l'économisme. Si on est là, on vient avec du pragmatisme, des solutions, tous entrepreneurs.
Ce discours démocratique, il rime avec ouverture, et non repli, et non fermeture, et non exclusion. Je suis désolé, il n'y a pas que le libéralisme dans le discours de Macron. Il y a véritablement une certaine forme d'humanisme.
De mondialisation heureuse.
Et d'ailleurs, au passage, il s'agit là de quelqu'un qui n'a pas une véritable expérience africaine. Bon, il a passé quelques mois en tant que stagiaire de l'ENA au Nigeria, pour le coup.
Il a été quand même reçu début avril par Alpha Condé.
Il a été reçu, et c'est vrai que ses fonctions à Bercy lui ont permis d'avoir des entretiens avec Macky Sall, par exemple. Il a eu des contacts avec Zuma, le Sud-Africain, avec Buhari, le Nigérian, certes.
Mais le dénominateur commun des deux, quand même, c'est qu'aucun n'a une connaissance de l'Afrique.
Quand j'essaye de discerner quelle est sa perception des réalités du continent, je veux dire que je suis un peu perplexe parce qu'il projette dans ses interviews sur ce sujet une vision extrêmement polissée avec un culte des infrastructures et des superstructures. C'est-à-dire parler coopération, Union européenne, Union africaine, dont au passage il salue l'efficacité dans la lutte contre le péril guerrier. Il y a chez lui l'affichage effectivement d'une volonté, mais hélas c'est un lexique qui a été d'une certaine manière épuisé par Hollande, Sarkozy et compagnie, partenariat stratégique, vous savez tous ces mantras, partenariat équilibré, nouvelle vision, etc. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Leçon de réalisme, et je termine là-dessus. Vous avez à côté une Marine Le Pen qui dit « on va porter immédiatement à 0,7% du PIB l'aide au développement ». Financement, on n'en sait rien, comme d'habitude. Alors que la seule réalité concrète, c'est qu'à chaque fois que dans les conseils régionaux où siégeait le Front National, il y avait des projets de coopération avec l'Afrique, il les cisaillait à la base.
Hassan Diop, un autre point quand même que je voudrais souligner avant qu'on passe à l'autre sujet sur Conakry, c'est l'éclatement du Parti Socialiste qui aura forcément une incidence sur l'International Socialiste dont sont membres plusieurs chefs d'État.
Forcément.
Alpha Condé, le Malien, mais également le Nigérien.
Voilà, attendons tout de même, avant de parler de ce démantèlement ou de cette chute prodigieuse du Parti Socialiste, attendons les législatives. On va voir combien de députés, est-ce que le Parti Socialiste pourra continuer à peser dans la configuration politique générale de la France. Ça, on ne le saura qu'à l'issue des législatives et du nombre de députés qui seront élus sous la bannière socialiste. Juste en deux mots, en ce qui concerne ce que pourrait être la politique africaine de Macron s'il était élu, je pense que ça va reposer sur trois piliers comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura le pilier du militaire, de la sécurité, il y aura le pilier de l'économie, incontestablement, parce que la France va chercher également sa croissance en Afrique, et c'est normal, tout comme la Chine va chercher également ses moyens de ressources et de richesses en Afrique. Et puis il y aura le pilier politico-diplomatique, et je pense que le politico-diplomatique va être grandement influencé par les deux premiers piliers, c'est-à-dire le militaire et l'économie.
L'arrivée, Stéphanie Hartmann, l'arrivée de l'un ou l'autre, est-ce une chance pour construire une nouvelle relation entre l'Afrique et la France?
Oh non, ni l'un ni l'autre. Oui, je pense qu'avec Emmanuel Macron, on sera forcément, sûrement, dans la continuité de ce qu'a fait François Hollande. Mmh. D'ailleurs, on le voit bien avec la présence de Jean-Yves Le Drian aux côtés d'Emmanuel Macron.
Quand Idriss Déby n'aura pas à se faire de soucis.
Imaginer, quant à Marine Le Pen, j'ose pas imaginer, je crains le pire. Je pense qu'effectivement, on la voit, son premier voyage est au Tchad, rendre visite à Idriss Déby, il a salué le travail. Ça donne un aperçu de ce que pourraient être les relations franco-africaines avec Marine Le Pen.
Vincent Lejeune, un dernier mot.
Si vous voulez, je crois que la perception d'Emmanuel Macron, qui est assez idéaliste et d'une certaine manière un peu angélique, c'est-à-dire qu'il a des propos tout à fait pertinents sur le travail qu'il faut accomplir pour l'égalité homme-femme en Afrique, très bien, le culte du secteur privé, les acteurs économiques, fluidifier par exemple les allées et venues des universitaires, des chefs d'entreprise, tout ça est marqué au coin du bon sens. Mais ça nous raconte une Afrique qui n'est pas nécessairement conforme à celle que nous connaissons. Et puis alors, s'agissant encore une fois de Marine Le Pen, elle affiche l'Afrique comme sa première priorité internationale, et évidemment ceci ne vaut que à l'échelle de la promesse, puisque en réalité ses vraies priorités ce seraient, dans l'hypothèse funeste pour l'Hexagone de son élection, ce serait évidemment la Russie de Poutine, le maintien de certains fantasmes moyen-orientaux, etc. Donc tout ça, à mon avis, conduit à quand même beaucoup de circonspection dans la normalisation apparente mais limitée de la présence du Front National au contour.
Il faut juste préciser que sur les Français d'origine étrangère, elle a mis de l'eau dans son vin puisqu'elle a déclaré qu'il n'avait rien à craindre de sa présidence, peu importe leur couleur et même leur religion.
Et ben voilà qui nous rassure.
En 2002 et en 2014, l'honneur était revenu à Alexandrie, puis à Port-Harcourt, désigné capitale mondiale du livre. Depuis le 23 avril et jusqu'au 22 avril 2018, Conakry assumera les mêmes fonctions dans un pays qui compte certes des écrivains de renom, Kamara Lai, l'auteur du célèbre roman L'Enfant Noir, ou Tierno Mononimbo, prix Renaudot 2008 pour Le Roi de Cahel. Le livre demeure, malgré tout, un produit inaccessible. Je vous propose d'écouter Siaka Barry, le ministre guinéen de la culture.
Vous avez vu aujourd'hui toute la jeunesse guinéenne mobilisée comme un seul homme autour de cet événement capital, de cet événement de portée mondiale. Mais Conakry, capitale mondiale du livre, c'est un juste retour aussi du bâton de l'histoire. Parce que n'est pas capitale mondiale du livre qui le veut. Cette capitale que vous visitez aujourd'hui, c'est la capitale de Camara Lai, auteur de L'Enfant Noir. C'est la capitale de Tcherno Mounenembo. C'est la capitale de William Sassine. C'est la capitale d'un certain Ibrahim Babakaké qui ont été des figures de proue de la littérature africaine et de la littérature mondiale tout court. Et donc c'est un honneur pour nous d'accueillir toutes ces délégations et au-delà de l'aspect festif de cet événement, nous voulons pérenniser aujourd'hui la promotion du livre dans notre capitale et dans notre pays.
Alors cette désignation à Saint-Diop, on la doit à la volonté d'un homme, hein, un patron d'une maison d'édition guinéenne, Sansi Kabadiakité, qui a permis que Conakry soit désignée capitale mondiale du livre 2017. Une belle vitrine, mais que faut-il en attendre concrètement?
Alors effectivement, il y a cet éditeur qui a été l'un des artisans hein, pour faire de Conakry la capitale mondiale du livre, mais il y a aussi, il faut le citer, je crois, lui rendre hommage, c'est l'ambassadeur de Guinée en France, qui était avant ambassadeur à l'UNESCO.
Donc, Camara.
Camara, absolument. Qui était un homme de culture également très, très fascinant de ce point de vue-là. Voilà, il ne faut pas uniquement que, parce que capitale mondiale du livre, c'est 12 mois, il faut, comme le disait le ministre, pérenniser effectivement cet hommage, cette manifestation. Et je crois que la volonté, aussi bien d'ailleurs de l'UNESCO et des autorités guinéennes, c'est de transformer, de faire de Conakry ce que Ouagadougou est
au
cinéma. Voilà.
Et alors, Bamako à la photographie.
Et Bamako à la photographie. Alors ça veut dire par là qu'il faut effectivement associer pas mal d'acteurs, avoir des lieux, faire venir des jeunes auteurs, faire vivre aussi du théâtre, trouver des sites, et puis aussi permettre une diffusion du livre qui soit accessible au plus grand nombre. Alors je crois qu'aujourd'hui, les moyens technologiques le permettent. Et puis étendre aussi cette conception du livre aux langues nationales. Là aussi, des expériences sont menées, semble-t-il, hein, au Sénégal et dans un certain nombre de pays où Boubacar Boris Diop, c'est ça, fait traduire des grands auteurs.
Des grands classiques en langue nationale,
en langue nationale. Pas seulement d'ailleurs des auteurs africains, mais ça va de Racine à des auteurs.
C'est l'un des enjeux de la lecture sur le continent africain, effectivement.
Oui, mais tout cela a un coût et les mécènes ne semblent pas se bousculer pour l'instant. Hein.
Alors, oui, tout cela a un coût, effectivement. Alors, parce que je voudrais être un peu caustique, parce que j'ai fait un peu l'expérience. À chaque fois qu'on parle de Conakry, capitale mondiale du livre, vous avez des petits rires sous le manteau. Les gens disent, ah oui, les Guinéens n'aiment pas lire, tout ça. Surtout, le problème, c'est qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est important. Donc, c'est surtout ça, le problème. Et donc, ce genre d'événement peut permettre, effectivement, de au moins mettre la lumière, éveiller les consciences là-dessus pour remettre au cœur la lecture. Alors, il ne faut pas que ce soit seulement pendant un an. Il faut que ce soit des mécènes aussi. Il faut que l'État guinéen mette la main à la poche. Et il faut que l'État guinéen mette la main à la poche sur le long terme. Parce que la lecture, ça passe aussi par l'éducation. Donc, il faut aussi doter les écoles de bibliothèques, de livres.
Il y a deux projets de construction de bibliothèques.
Et il faudrait que ce soit pas seulement à Conakry, que ce soit aussi également partout en Guinée.
Alors, un des projets, Vincent Jeu, c'est de créer des points de lecture dans tous les quartiers de Conakry, déjà, dans un premier temps.
Le défi, c'est évidemment de crever le plafond de verre de l'élitisme culturel. Bon, parce qu'on va toujours pouvoir réunir entre les expatriés et les élites locales, des gens pour une pièce de théâtre, un concert, une lecture publique, etc. Bien. Les chiffres sont implacables. Vous avez grosso modo un taux d'analphabétisme en Guinée sur les 12 millions d'habitants de 50%. D'après les enquêtes, 35 à 40% de Guinéens qui n'ont d'autre rapport au livre que les lectures obligatoires de la scolarité. Et puis, il y avait un historien qui était cité par l'Agence France Presse dans un reportage récent qui disait, en plaisantant évidemment, vous savez où on planque l'argent chez nous ? Dans les livres, parce qu'aucun voleur n'aurait l'idée d'aller le chercher là-bas. Bon. Alors, on peut très bien célébrer le côté tout à fait touchant, donc des bouquinistes, on en a à Conakry comme partout en Afrique, on appelle les libraires par terre. Mais comment le livre circule? Et dans l'accessibilité que vous évoquiez tout à l'heure, et le coût, parce qu'on sait très bien, tous ceux qui écrivent des livres discutent avec les éditeurs, c'est mon cas, c'est qu'on pourrait pas avoir une version peut-être moins luxueuse, mais plus accessible au regard du pouvoir d'achat de chacun, y compris chez les universitaires, les enseignants, les étudiants, etc. Et ça pose un vrai problème. Et là, il y a peut-être une solution, qui est le livre électronique. Attention, ça veut dire aussi qu'il y a des connexions, mais enfin, on sait très bien comment l'Afrique a embrassé le satellitaire, le numérique, le téléphone cellulaire, etc. Et on sait très bien aussi que le coût d'accès à un livre sous sa forme numérique est infiniment inférieur à ce qu'il est dans sa version éditeur classique papier. Donc voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire que si on a ce zoom que vous évoquiez, c'est déjà très bien. c'est déjà très bien de réinscrire le livre dans le paysage. Mais si ce n'est que le temps de cérémonie de célébration et que derrière cela, il n'y a pas une sorte de banalisation de l'accès à la lecture pour chacun.
Il faut une vraie politique culturelle aussi.
Voilà, dans la durée. Sinon, ce sera un joli coup d'épée dans l'eau.
Ouais. Comment peut-elle se traduire, cette politique culturelle?
Cette politique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement valoriser les budgets de l'éducation, comme le disait...
Qui sont les plus faibles, généralement.
Qui sont souvent les plus faibles. Il faut effectivement financer une politique du livre digne de ce nom. Pas seulement des centres de lecture, mais de vraies bibliothèques de quartier. Utiliser les moyens technologiques modernes aujourd'hui. Par exemple, pas seulement le numérique, mais effectivement, par exemple, imprimer. On peut aller chez un libraire, commander un livre, et le livre est imprimé à la demande. C'est-à-dire, donc, il n'y aura pas le transport du livre qui est payé.
Une opération qui est tentée, d'ailleurs, à Dakar.
Dakar, voilà. Donc, ce qui fait que le coût sera, évidemment, beaucoup plus abordable que...
Pensez peut-être au bibliobus aussi.
Oui.
Fait d'amener des livres, et qui peuvent être des livres de seconde main, c'est ça qui est important.
Absolument.
Dans des quartiers, dans des villages.
Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire.
Oui, il y a des expériences.
Expériences en Côte d'Ivoire. Mais que peuvent faire les écrivains guinéens quand même, Stéphanie Hartmann?
Déjà, ils sont par leur représentation, parce qu'effectivement, alors c'est un paradoxe, on ne lit pas beaucoup sur le continent africain, mais le continent africain est quand même pourvoyeur d'énormément et de grands auteurs littéraires, donc ce sont déjà des porte-voix de la littérature et de l'écriture. Après, ça peut être aussi des mécènes. On voit par exemple quelqu'un comme Bolloré ouvrir des salles de concert à Conakry, on pourrait lui suggérer d'ouvrir aussi des bibliothèques.
C'est pour la diffusion du cinéma.
Voilà.
Je pense qu'il est indispensable, en Afrique, mais c'est vrai de l'Amérique latine, d'une partie de l'Asie du Sud-Est aussi, que l'écrivain, qui est une figure un peu mythique, descende de l'Olympe. C'est-à-dire que c'est très bien de recevoir le prix Renaudot, c'est parfait de concourir. Mais le fait de montrer qu'on peut aller aussi vers un lectorat virtuel, car il n'est hélas que virtuel à ce stade, le fait de désacraliser la figure de l'homme de lettres, je pense, peut contribuer à jeter une passerelle justement entre un public aujourd'hui inexploré et les auteurs.
Il y a quelqu'un qui fait déjà beaucoup, c'est le célèbre historien guinéen Djibril Tamsir Niagne.
C'est vrai, il fait beaucoup, et c'est vrai qu'il y a eu même des initiatives en 1989 à Dakar, lorsque on avait...
Il y a un des auteurs de l'Afrique, de l'histoire contemporaine de l'Afrique.
De l'Afrique, oui. Et non, mais je pense que cette passerelle existe, parce que j'avais assisté à la première Biennale des Arts et de la Culture de Dakar 1989, qui visait deux pôle. Il y avait le pôle littéraire, de la littérature. Notamment, il y avait le grand écrivain guinéen, hélas aujourd'hui disparu, qui était là, William Sassine. Et donc, l'ambition de cette biennale de Dakar, c'était donc attaquer le front des arts plastiques et de la littérature. Et moi, j'étais témoin de voir un type comme Rachid Mimouni, de voir William Sassine, discuter avec des gens qui venaient à l'école, à l'hôtel, des étudiants. Ils étaient très nombreux et il y avait là quelque chose de très fort et de très intense. Et je pense que Conakry peut jouer ce rôle, et ça sera aussi le rôle, évidemment, des auteurs guinéens de faire venir d'autres auteurs du continent et en dehors du continent, bien sûr.
On a vu une belle opération, justement, Stéphanie Hartmann, lors du dernier Salon du Livre à Paris, avec le salon
pavillon des Lettres d'Afrique.
Des Lettres d'Afrique.
Tout à fait,
pour promouvoir, justement, la littérature africaine.
Oui, c'était un très beau stand et très grand. Voilà, on a vu la richesse, justement, littéraire du continent. Et du coup, l'idée se disait sur ce stand que pourquoi ne pas avoir un salon de cette ampleur sur le continent, effectivement, pour promouvoir aussi les littératures africaines.
Un point quand même, n'oublions pas que le rapport à la lecture s'est beaucoup appauvri, y compris dans les sociétés nanties occidentales. Aujourd'hui, quand vous enseignez, y compris à l'université ou dans un institut supérieur, faire lire un livre complètement par semestre relève parfois de l'exploit. Donc vous avez cette sorte d'éloignement de la lecture, alors par une pratique frénétique des réseaux sociaux, etc., chez les nantis, et de l'autre côté, vous avez un accès à la lecture qui est entravé par la pauvreté.
Ouais.
Mais hélas, d'une certaine manière, le résultat est le même.
Ce sera le mot de la fin. Au lendemain du verdict du tribunal militaire de Yaoundé, qui a condamné à une peine de 10 ans, notre confrère Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue haoussa, nous lui dédions cette émission. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Vincent Jeu de L'Express. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.